25 octobre 2011, bienvenue à l'aérospatiale en compagnie de Julie Gagné et de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, une heure, ma foi, fort chargée, elles le sont toujours, mais à chaque fois, je ne cesse de m'extasier devant le fait qu'il se passe beaucoup de choses dans l'émission. Notamment, on rencontre Sylvie Larouche pour parler de son exposition « Les théâtres identitaires » qui est présentée au Centre Vue. Fanny Hénon-Lévy viendra nous faire une chronique, non pas sur une exposition en art visuel, mais bien sûr une pièce de théâtre. Entre vous et moi, il n'y a qu'un mur de Jocelyn Pelletier. À premier acte, Fanny va s'intéresser principalement à la plasticité ou picturale dans différentes disciplines. Dans les arts visuels, c'est pas une discipline qui est fermée sur elle-même. Souvent, on fait appel aux arts visuels. Donc, Fanny nous en parlera. Également, on rencontre Jean-Pierre Labiot, conservateur au Musée national des beaux-arts du Québec et commissaire de l'exposition Dans l'intimité des frères Caillebotte, donc le commissaire à Québec. Ça faisait longtemps que l'exposition était commencée, on avait hâte d'en parler, c'est le cas aujourd'hui. Un peu plus tard dans l'émission, Raymond Poirier nous fait sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
As-tu un petit quelque chose à nous mettre sous la dent en attendant?
Facebook, Andy Warhol et Nouvelle Bourse de l'art.
On n'en dit pas plus et également aujourd'hui, on discute avec Simon Roy. Simon Roy qui nous fait des suggestions en art audio. Bonjour Simon.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Ça va très bien. C'est une belle journée ensoleillée, mais à tout le moins, le soleil est dans ma tête.
On faut le prendre où est-ce qu'on peut.
Mais oui, c'est ça, surtout dans ces durs mois d'automne avec les feuilles qui tombent.
Moi, j'ai peut-être la musique qui est un peu appropriée pour la journée aujourd'hui.
Oui, tu nous proposes un artiste montréalais cette semaine.
Oui, c'est Emmanuel Chantre. J'adore ce qu'il fait. Il n'y a pas une grosse présence, mettons, en ligne ou même d'album. C'est un artiste en art numérique. Il fait des installations qui combinent la musique, l'art audio, la programmation, l'interactivité, la vidéo. Donc, genre de touche à tout. Je l'ai découvert, il évoluait sous le nom de Taxi Nouveau. Je l'avais découvert parce qu'il y avait une façon originale de financer un album. Il vendait les touches d'un clavier. Donc, les gens pouvaient se procurer une touche au prix de, je crois que c'est une vingtaine de dollars. Puis, une fois que l'album allait être complété, ben on recevait une copie de l'album.
Oui, il a fait un peu comme on fait ici à Québec pour l'amphithéâtre. Il a vendu des touches pour l'album ensuite.
Ben oui, c'est ça, parce que je trouvais que c'est une super de bonne idée. Puis en plus, c'est vraiment bon ce qu'il fait. Ça donne dans le projet des nouveaux, ça donne dans le 8-bit. D'ailleurs, il y a un des fondateurs du collectif Toy Company. C'est un collectif qui fait de la musique 8-bit. Puis aussi, ben, il est dans le collectif duo Popcore, Popcore Duo plutôt. Il a tourné un peu partout, en Belgique, en France, aux États-Unis, en Suisse, en Hollande, même à Taïwan. Donc, un gars de Québec qui est à Montréal, puis c'est ça, le jeudi prochain, il lance un autre album qui s'appelle Memotion and Other Works. C'est une compilation de ce qu'il fait un peu. C'est assez inusité, mais son album, c'est un bloc de béton qu'on peut brancher de façon USB sur son ordinateur. Donc, c'est ça, il va avoir un tirage limité de 50 copies, 50 blocs. Un petit peu une métaphore du CD encombrant. Donc, ça va être assez intéressant.
De quel format, les blocs de béton, est-ce que tu sais?
Non, c'est ça, je n'ai pas encore vu. Je vais faire une entrevue avec lui cette semaine.
Dimanche
prochain? Je posterai des photos sur le blog de l'aérospatiale. Ça m'intrigue vraiment.
Ben moi aussi, ça m'intrigue.
Donc, pour les auditeurs de Montréal, c'est le 27 octobre au Eastern Block. Donc, c'est sur la rue Clark. Allez faire un tour, c'est sûr que ça vaut la peine. Ça m'intrigue au plus haut point. C'est sûr que je vais me procurer un album.
Tu vas te caler ton bloc de béton?
Ben oui, c'est ça. C'est un petit peu compliqué côté portatif, mais je pense que ça vaut la peine. Sa musique est vraiment bonne.
Puis, c'est des extraits de cet album-là qu'on écoute aujourd'hui?
Oui, c'est ça. On va écouter qu'il y a quatre extraits. On va débuter avec la pièce Prairie. Ça va être Concrete Abstractions. Ensuite, dans l'autre partie de l'émission, on va entendre la pièce From Noise to Noise. Puis, enfin, la dernière pièce, c'est Pop Continental.
Ben, Simon Roy, merci beaucoup.
Ben, merci.
On t'écoute dimanche soir à Web Musique. À compter de?
À compter de 20h à 21h.
Parfait. Ben, on écoute tout de suite un extrait. On écoute Prairie sur les ondes de CKRL.
Thank you.
vient d'entendre un extrait de l'album Memoirs and Other Works, un album de béton carrément à brancher dans un port USB dans un ordinateur. C'est vraiment un dossier à suivre. Simon Roy, je l'ai dit, j'ai bien hâte qu'il nous envoie des photos pour le blog de l'aérospatial.wordpress.com où vous pouvez trouver les pièces qu'on a entendues dans l'émission, les liens pour les articles. Vous pouvez écouter en balado-diffusion. Bref, lire les communiqués, avoir des heures et des heures de plaisir. Et parlant de lecture, c'est ce que Raymond Poirier fait à chaque semaine pour nous à l'aérospatial. Il nous fait la revue de presse. Et sans plus tarder, je te cède la parole.
On va commencer donc avec un petit suivi, Julie. On en avait parlé la saison dernière, L'origine du monde, cette œuvre de Courbet qui était censurée de Facebook, en fait, qui était assimilée à de la pornographie, puisque on le sait, l'image, essentiellement, c'est un organe génital féminin, en fait, du moins des cuisses entre-ouvertes.
Une vue rapprochée d'un entrejambe.
Et il y avait des gens qui avaient mis ça sur Facebook. Facebook avait fermé les comptes en disant, regardez, c'est des images qui sont inacceptables. Et là, il y a une des personnes dont le compte a été fermé qui a décidé de prendre action en justice. C'est un Français, un Parisien, enseignant, père de trois enfants, qui a décidé de se lancer dans cette entreprise-là. Alors, il a alerté donc la filiale française de Facebook, a déposé une assignation dans le tribunal de grande instance de Paris. Ça va être intéressant de voir comment Facebook va réagir pour deux raisons. Bien entendu, pour les raisons liées aux questions de censure, aux questions de qu'est-ce que de la pornographie, qu'est-ce que de l'art, mais aussi jusqu'à récemment, Facebook n'acceptait que les causes qui étaient déposées en Californie, puisque c'est là que se trouve son quartier général. Donc, ça serait intéressant de voir aussi s'ils vont se déplacer en France pour l'occasion. Dossier à suivre, et ce sera très intéressant. En fait, j'ai vraiment l'impression, quand on suit ce dossier-là, qu'on se retrouve carrément là, de retour au 16e siècle, au 15e siècle et au 18e.
Ou encore dans les années 40, il y a une sculpture de Robert Roussel qui avait été emprisonné à l'époque.
Donc, on met ça dans notre pile de dossier à suivre. Deuxième élément pour cette semaine, en fait, ça concerne Andy Warhol. En fait, c'est la Fondation Andy Warhol qui a annoncé qu'elle allait cesser son travail d'authentification des œuvres d'art du célèbre artiste du mouvement Pop Art. Et ils vont arrêter ça au début de l'année 2012.
Pourquoi?
Des problèmes au niveau du coût, en fait. Du coût de l'opération, c'est que pour des œuvres qui étaient authentifiées positivement, il y en avait aussi qui l'étaient négativement. Et malheureusement, dans bien des cas, quand mon collectionneur se voyait refuser l'authentification, il poursuivait en cours la fondation. Alors, ça engendrait des frais juridiques assez importants. On parle de pratiquement 7 millions de dollars là, depuis les débuts de l'activité de l'organisme, donc à peu près peut-être 500 000 par année. Donc, c'est quand même assez important comme montant. Et donc, ils disent, regardez, c'est pas nécessairement la raison fondamentale, mais c'est une raison parmi d'autres. Et on s'est dit, plutôt que de donner de l'argent aux avocats, on va plutôt créer un système de bourse pour des artistes qui travaillent dans des domaines qui auraient plu peut-être à M. Warhol, plutôt que de donner l'argent aux avocats.
Pourquoi pas?
Par contre, là, ce qui se passe, c'est que le milieu des collectionneurs critique cette décision-là en disant, regardez, c'est irresponsable, puisqu'il n'y aura plus nécessairement de mécanisme aussi fort là, pour reconnaître les œuvres.
Donc, dossier à suivre encore, on verra ce qui arrive avec Warhol.
Et un autre dossier à suivre, tiens, pour troisième nouvelle, cette semaine, il y a une espèce de casino, bourse de l'art qui a été mise en place. Je suis tombé là-dessus en parcourant le web. Que offre ce site qui s'appelle My Art Invest, c'est de posséder un bout d'une œuvre d'art. Donc, exemple, une sculpture de Jeff Koons, un tableau de Takashi Murakami ou autre. Alors, on achète un centième de l'œuvre. Donc, la valeur totale est découpée en petites parts. Et donc, il y a plusieurs petits investisseurs qui peuvent investir un montant pour l'achat de l'œuvre et éventuellement la revente de cette œuvre-là aussi en espérant faire un profit.
C'est comme la bourse, là.
C'est un peu comme une bourse.
C'est étrange.
C'est assez étrange. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne quand même pas si mal. Il y a 1000 membres, 70% des gens qui ont fait un premier investissement en moyenne à peu près, mon Dieu, ou 500 $, donc quand même pas si mal. Beaucoup de critiques également. Et donc, l'idée, c'est vraiment de posséder un bout d'œuvre et de rendre plus accessible, entre guillemets, ce milieu-là au commun des mortels, donc pour pouvoir faire des investissements plus massifs. On verra qu'est-ce qui en retournera, s'il y aura des troubles juridiques ou autres aussi, parce que tout n'est pas rose là-dedans. L'article complet sera sur le blog de l'aérospatiale, donc vous pourrez aller compléter votre regard là-dessus. Deux petites en terminant. Premièrement, triste nouvelle, en fait, le jeune artiste Mathieu Lefebvre est décédé dans la nuit du 18 au 19 octobre, brutalement happé par un camion alors qu'il se déplaçait à vélo dans un quartier d'East Williamsburg à Brooklyn où se trouvait son atelier. Et avec lui, en fait, disparaît un artiste qui était jugé comme l'un des jeunes artistes les plus prometteurs. On l'avait vu au Symposium de Baie-Saint-Paul en 2007, à la Biennale de Prague en 2011. Il était représenté depuis 2008 par la Galerie Division à Montréal. Ce qu'on dit, en fait, c'est vraiment un jeu avec la matière picturale, un goût évident pour l'excès, une critique amusée, acerbe, du fétichisme, de la touche, de l'expressivité et le reste. Bref, donc un jeune artiste qui vient de disparaître, Mathieu Lefebvre.
Triste, c'est vraiment triste.
Et en terminant, une bonne nouvelle, un tableau d'un maître néerlandais vu depuis plus de 300 ans et dont un marchand d'art juif allemand avait été spolié sous le régime nazi a été rendu la semaine dernière par un casino allemand, c'est Legatère, et c'est dans le cadre, en fait, d'une grande enquête autour, justement, de ce marchand d'art, Mark Stern, menée par l'Université Concordia à Montréal.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On s'en va en petite pause audio. On écoute Concrete Abstractions. Au retour, on discute avec Jean-Pierre Labiot. Quelques semaines s'ouvrait une exposition qu'on attendait avec impatience à Québec, quand même une très grosse exposition qui est celle dans l'intimité des frères Caillebotte, peintre et photographe, qui est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Avec nous pour en parler, Monsieur Jean-Pierre Labiot, qui est conservateur au musée et qui est également commissaire de l'exposition à Québec. Bonjour Monsieur Labiot.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien, merci.
L'exposition va bien aussi, hein? Je pense qu'il y a un fort achalandage.
Oui, ça marche assez bien, je pense, oui.
La question, en fait, de départ, parce que depuis quelques années, on entend de plus en plus le nom de Gustave Caillebotte. Soit on a pensé à lui comme peintre, mais surtout comme mécène des impressionnistes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on lui redonne ses lettres de noblesse comme peintre?
Je pense que c'est parce que le peintre a été injustement oublié pendant près de 100 ans. En fait, le peintre est décédé en 1894 et il a fallu attendre 1994 pour que le musée d'Orsay fasse avec l'Art Institute de Chicago une grande rétrospective, une exposition monographique dédiée à l'œuvre de Gustave Caillebotte au Grand Palais. Et en réalité, depuis ce temps-là, on redécouvre cette œuvre qui est fondamentale, je pense, dans la peinture impressionniste. Caillebotte était connu comme mécène parce qu'il avait légué à l'État français 74 tableaux, en fait seulement 50 ont été pris par l'État après son décès. Et je pense que ayant forcé un peu la main du gouvernement français, enfin l'État français, pour que ces tableaux rentrent au musée du Luxembourg, il y avait eu un certain froid qui s'était établi entre les descendants de Caillebotte et l'État. Et le peintre a toujours été assez mal considéré, enfin, ou assez peu considéré. On l'a vu comme mécène, on l'a rarement vu comme peintre, mais en réalité, quand on découvre sa peinture, on s'aperçoit à quel point l'artiste est important, à quel point son regard transforme aussi les habitudes qu'on a dans notre vue de Paris, par exemple, à l'époque. En tout cas, c'est un artiste plutôt intéressant à redécouvrir.
Oui, parce que quand moi j'ai été frappée, en fait, bon, c'est le cas des artistes impressionnistes globalement, mais quand même, on remarque, surtout justement, vous parliez des compositions à Paris, les compositions en tant que telles sont d'une modernité très surprenante, c'est déroutant même parfois, là, des vues en plongée, des grandes diagonales.
Absolument. Ces vues en plongée, il est le premier probablement à les aborder. C'est des vues qui vont ensuite être très connues, enfin, et très, très révélatrices en photographie. Molinagui ou André Kertész dans les années 20 et 30 vont faire des vues en plongée de la ville comme ça, mais Caillebotte en fait en 1880, c'est quand même assez surprenant. Alors c'est pour ça, on a longtemps pensé que son frère, qui était photographe amateur, avait pu influencer son regard de peintre. Mais en réalité, tout laisse croire, après cette recherche qui a été faite, que le frère n'a pas du tout influencé Gustave, et que c'est Gustave qui a été vraiment le premier à regarder la ville sous cet angle-là, puisque Martial va commencer ses photographies, enfin va commencer à photographier la ville en 1890, c'est-à-dire quand Gustave va avoir peint la plus grande partie de son œuvre.
Ah oui, donc c'est vraiment en décalage finalement la production là, des deux frères.
C'est totalement en décalage. Gustave finit, enfin il lui reste 4 ans à vivre en fait, il va faire ses derniers tableaux de fleurs, de bateaux quand il est au petit Gennevilliers, quand Martial va commencer à peindre. Mais ça c'est le travail qu'a fait Gabriel Andriès sur la photographie de Martial qui a permis de le déceler. Et comme mentionnait Serge Lemoine au moment de l'ouverture de l'exposition, on a attribué ses perspectives et ses vues grand angulaires de Gustave à la photographie, mais en réalité les objectifs grand angulaires n'existaient pas à cette époque. Donc vraiment, c'est un regard tout à fait neuf que Gustave Caillebotte porte sur son environnement.
Et ça préfigure carrément la photographie, si je comprends bien.
Exactement. C'est vraiment c'est quelque chose qui a beaucoup étonné, en fait, au moment où la recherche a été faite, c'est qu'on pensait, compte tenu des liens qui existaient entre les peintres impressionnistes et la photographie, que la photographie avait été l'élément déclencheur de tous ces nouveaux cadrages que beaucoup de peintres vont utiliser.
Degas, notamment.
Mais en réalité, il semble que ce ne soit pas le cas, que c'est vraiment un regard qui est un regard de peintre et non pas un regard de photographe.
Et d'ailleurs, parlant de photographie, il y a énormément de photographies de Martial Caillebotte. Pour vous, c'est où réside précisément l'intérêt de ces photographies-là? Qu'est-ce qui fait on expose ça et on se dit que ça a vraiment une grande valeur?
En termes de valeur, c'est au niveau de la question esthétique. Parce qu'en termes de valeur, les photographies, je ne sais pas quand vous avez fait la visite de l'exposition, vous avez constaté ça, mais c'est des retirages en fait. On n'a pas de tirages originaux à l'intérieur de l'exposition. Ce qui fait la valeur de ces photos-là, c'est le regard aussi que pose Martial sur son environnement. Il y a quand même des photos qui sont étonnantes, comme ces photos d'intérieur où on voit Martial se rasant ou sa femme dans la baignoire, enfin des choses qui étaient totalement inusitées pour l'époque.
Puis en même temps, ce qui est intéressant pour quiconque connaît un peu les impressionnistes, c'est quand même que Martial Caillebotte a photographié des endroits quand même majeurs de l'impressionnisme. Je pense à Argenteuil notamment, où il a beaucoup photographié l'eau, donc les thèmes restent près des artistes impressionnistes aussi.
Absolument, mais il a été très proche de Gustave. En fait, Martial et Gustave ont vécu ensemble jusqu'en 1887, jusqu'au mariage de Martial. Et donc là, il fréquentait les mêmes personnes, c'est-à-dire Monet, Renoir, enfin et les artistes impressionnistes qui participaient aux expositions. Donc on suppose que les sujets qui ont intéressé Martial en photographie sont probablement influencés par ce qu'il a vu des peintres qui étaient proches de la famille.
D'ailleurs, si on compare les deux productions, moi j'ai vraiment eu l'impression de voir un portrait des mutations de la société à la fin du 19e siècle, à la fois en photo et dans le travail de Gustave. Est-ce que vous avez observé aussi ça?
Oui, il y a des mutations, mais il y a deux regards qui sont quand même assez différents. le regard de Gustave, par exemple, quand on a ces vues du balcon qui sont si révélatrices du travail de Gustave, on voit que Martial va photographier des personnages sur les balcons aussi. Il y a trois photos, en fait, une photo de sa fille Geneviève en chinoise, une photo de son épouse et une photo de lui-même. Et dans les trois sujets photographiés, vraiment, ce qui est le motif principal, c'est le personnage. Et quand on regarde les tableaux de Gustave, on s'aperçoit que le personnage devient secondaire, mais que c'est vraiment la ville et cette plongée sur la ville qui est son sujet principal.
D'ailleurs, une ville qui est en profonde mutation aussi, je reviens au terme de mutation, mais à l'époque aussi, parce qu'on est vraiment à la fin du 19e siècle, Paris change énormément et les deux ont su croquer ces changements-là.
Absolument. Alors ça, on le voit bien dans le Paris d'Haussmann, en fait, que peint Gustave de façon assez extraordinaire, mais on le voit aussi dans plusieurs photographies de Martial, puisque Martial nous présente, lui, les monuments qui sont en construction. On voit donc la Tour Eiffel, le palais du Trocadéro, enfin, ou la basilique du Sacré-Cœur, des monuments qui sont, je ne parle pas du Trocadéro parce qu'il a été démoli depuis, mais pour ce qui est de la Tour Eiffel ou du Sacré-Cœur, ce sont des monuments qui font partie du paysage parisien, tout au même titre que les grands boulevards, en fait.
Mais il y a quelque chose quand même d'assez, pour l'époque à tout le moins, d'assez avant-gardiste de choisir des sujets aussi contemporains qui célèbrent l'avancement et tout ça.
Oui, je pense que c'est une des caractéristiques de l'attitude des peintres qui étaient associés à l'impressionnisme, c'est-à-dire de présenter tout sujet moderne, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et on a souvent associé l'impressionnisme à une vision bucolique des choses, mais en fait, c'est des peintres qui s'intéressaient profondément à ce qu'il y avait autour d'eux. Donc on connaît les gares Saint-Lazare de Monet, mais on voit que la façon dont Caillebotte va peindre les alentours de la gare Saint-Lazare, notamment quand on voit ces images du pont de l'Europe, c'est totalement différent. Gustave s'intéresse vraiment à tout ce qui est plus structuré, plus en rapport avec cette vision du progrès, des nouveaux matériaux qui rentrent dans la construction. On parle de l'acier, de la fonte, enfin. Et tout ça est un ensemble de sujets sur lesquels il va se pencher avec beaucoup d'insistance, puisqu'il va faire quand même plusieurs tableaux où les éléments de la modernité vont être très présents.
Mais il s'est aussi quand même intéressé à ses jardins, un peu comme Claude Monet, à des scènes, je pense aux trois grands panneaux décoratifs, les scènes sur l'eau, qui sont quand même assez incroyables là, du point de vue technique.
Absolument. Alors là, dans ce cas du triptyque, il va adopter une technique, une touche complètement impressionniste, alors que jusqu'à présent, ça avait été un peintre qui avait une touche beaucoup plus proche de la peinture réaliste que de l'impressionnisme. Et ce qui est aussi très intéressant dans le triptyque, c'est que c'est un ensemble de panneaux décoratifs. Donc il y a cette préoccupation pour l'art décoratif qui touche beaucoup d'artistes. On sait que Bonnet s'est intéressé aussi au même sujet, qu'il a peint des panneaux de porte pour Paul Durand-Ruel, qu'il a fait plusieurs peinture à caractère décoratif, et chez Gustave, il y a cette préoccupation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de genre mineur ou majeur, mais tout est intéressant, en fait, et ils sont prêts à tout faire. Et c'est très étonnant quand on lit la correspondance de Gustave, puisqu'on a quand même accès à quelques-unes de ses lettres par le biais du catalogue raisonné de Marie Béraud, le catalogue de 94, et qu'on voit ses correspondances avec Monet ou avec Mirbeau. Et la peinture, c'est important, mais le jardinage est aussi important. Enfin, la voile est un sujet qui va le préoccuper. Donc, il y a vraiment tout sujet nouveau est une sorte de préoccupation et d'intérêt et n'a pas de préséance sur l'autre, en fait.
Mais Jean-Pierre Labiot, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et on a l'occasion de voir dans l'intimité des frères Caillebotte au Musée national des Beaux-Arts jusqu'au 8 janvier. Bien entendu, on n'attend pas jusqu'à la fin parce que quand on le fait, qu'est-ce qui arrive? C'est très, très, très plein au musée vers la fin de l'exposition. Donc, si vous voulez en profiter, que ce soit plus tranquille, dépêchez-vous d'y aller. C'est une très belle exposition. D'ailleurs, parlant d'aller aller à l'exposition ou aller en d'autres endroits, je vais vous faire une petite partie du calendrier avant de passer en pause. Donc, vendredi 28 octobre, c'est le vernissage de l'exposition Prince of Darkness qui est présentée à Engram. Le vernissage commence à 17h. Samedi, le 29 octobre à 14h, il y a une conférence de William A. Ewing, une conférence qui s'appelle « Au bon endroit et au bon moment » qui est présentée dans le cadre de l'exposition sur Steichen qui commence jeudi prochain au Musée national des Beaux-Arts. Dimanche, donc la veille de l'Halloween, il y a une conférence de Nicolas Mainville avec un mini-concert qui met en vedette les instruments de musique qui sont présentés à Materia dans le cadre de l'exposition « Mutation, matière, son ». C'est présenté à 13h. Et le 30 octobre également, dimanche à 19h30, Folliculture présente Extase, la bouche ouverte, et on y voit la lumière à la chapelle du Musée de l'Amérique française. Donc, c'est une soirée multidisciplinaire qui nous convie à une expérience qu'on dit extatique. On s'en va en pause, on se retrouve de l'autre côté pour discuter avec Fanny et non Lévy.
Orange ou blanc, cardelle, girofle, muscade, citrouille.
La cuivre et la citrouille revient en octobre à la Barberie. Surveillez son apparition sur notre page Facebook ou sur notre site labarberie.com. La Barberie, 310 rue Saint-Roch.
Orange ou blanc, cardelle, girofle, muscade, citrouille.
Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé est présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1.
This is tic-tac-toe.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Chaumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Try it now.
On entame déjà la deuxième moitié et donc la dernière de l'aérospatiale, toujours en compagnie de Julie Gagné à l'animation et de Jacques Gignac à la mise en onde. Et on est rejoint par Fanny Hénon-Lévy. Bonjour Fanny.
Salut Julie.
Tu es allée voir une pièce de théâtre la semaine dernière, en fait.
Entre vous et moi, il n'y a qu'un mur. Est-ce que c'est ça qui se passe entre toi et moi?
Pour l'instant, j'en vois pas, mais peut-être qu'il y en a-t-il un selon le propos de la pièce.
Virtuel. Du 18 au 29 octobre à premier acte, c'est une pièce de Jocelyn Pelletier qui est auteur et metteur en scène de cette pièce-là. Comment les arts visuels infusent le théâtre, comment ils infusent la danse, comment ils infusent là précisément, on va voir dans cette pièce-là, comment les différents thèmes ont été abordés par la scénographie et par la mise en scène, et comment on peut retrouver au sein de cette mise en scène et de cette scénographie de la performance, du happening. Bon, moi j'y ai vu l'expressionnisme dans le sens où la démarche est quand même assez introspective et assez réactionnaire. Et on peut parler d'Egon Schiele. J'ai vu un tableau d'Egon Schiele à un moment donné. Donc on peut parler des les thèmes tournent autour de notre société contemporaine. On est dans la violence au sein des comportements sociaux, la place de l'image dans les médias. Donc on parle de la publicité, on parle d'internet, on parle de la télévision, de cette image là qui est omniprésente, qui est vraiment un diktat dans nos vies. La communication, ou peut-être qu'on devrait dire le manque de communication.
Ou les problèmes de
communication, en tout cas, toute cette pollution visuelle et médiatique qui fait que on, nos rapports sociaux, nos rapports humains en sont bouleversés, en sont transformés, en sont touchés et sont en évolution. Donc c'est autour de ce thème-là que Jocelyn Pelletier travaille et nous fait une proposition scénographique et de mise en scène assez intéressante, dans le sens où il y a une succession de tableaux avec des tranches de vie qui sont proposées. Je parlerai pas de l'histoire à proprement dite, puisque c'est différents tableaux successifs qui sont autour de ces thèmes-là.
Des impressions
Mettons que ce qui m'intéresse là, ce soir, c'est de parler plus de la forme, de la forme globale.
Je parlais des tableaux qui étaient plus dans des impressions, c'est ça que je voulais dire, mais c'est pas très grave.
Mais là, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, la scène est horizontale et on se retrouve donc devant une mise en scène où les acteurs et les décors sont comme un work in process et tout le monde se change sur scène, les décors se font sur la scène, on a accès à leurs coulisses pendant qu'on est en plein show, au centre de la scène. Donc c'est séparé en trois parties. On a comme un triptyque dans le fond. Les parties sur les côtés sont les parties un peu coulisses, où quand même il y a une évolution, où il se passe quand même des choses, il y a une évolution dans l'espace, mais le centre de la scène est vraiment utilisé comme c'est l'action, avec des éléments scénographiques comme le néon au sol, le néon qui est un élément qui est un éclairage qui est utilisé généralement dans l'industrie, dans les commerces.
C'est pas un éclairage particulièrement flatteur ou intéressant.
Puis c'est ça, c'est un éclairage quand même assez blanc, assez cru, de la même manière que ces tableaux-là sont assez crus. Les protagonistes, donc nos intervenants passent d'état tantôt très doux, tantôt très tendre, tantôt très érotique. On est dans des déchirements, dans des cris. On a une musique live avec une guitare qui crie et qui hurle. Et puis des sons électro et de la batterie qui est aussi live. Donc là, je profite je parle de musique. On touche vraiment à la performance. On n'est pas dans de la performance dans le sens où on a un texte qui est quand même assez construit,
qu'on répète le même à chaque jour aussi.
C'est ça, il y a une mise en scène, on a une scénographie, on a quand même quelque chose de très réglé, très chorégraphié. En parlant de chorégraphie, on a des éléments de chorégraphie associés au jeu scénique. Mais un texte, même dans le texte, on est sur un texte saccadé, incisif, qui va chercher les clichés qu'on va retrouver dans les textos qu'on peut s'envoyer ou dans les petits mots qu'on s'envoie sur les médias sociaux,
sur Twitter,
dans les jargons entre jeunes ou dans les cours d'école. En tout cas, il y a vraiment un langage comme ça, très très rythmé, et tout, on a le stroboscope aussi qui vient rythmer à certains moments les scènes. Donc on a une cadence qui est rythmée et qui est calculée, mais le côté performance, c'est la place de l'aléatoire dans cette pièce-là. Le côté happening, on sent bien que au niveau de la guitare, d'un soir, j'en parlais avec Raymond Poirier il y a quelques instants, il me disait nous on y a été jeudi, moi j'y étais mardi, voilà les différences qu'il y a eu d'un soir à l'autre. C'est intéressant de voir à quel point cet aléatoire va avoir une énergie et un ressenti et une réponse différente du public.
Qui crée des moments uniques, finalement, qui fait que chaque soirée est vraiment différente de la précédente.
Totalement. De la même manière qu'une performance, d'une fois à l'autre, va faire réagir le public différemment, et donc les acteurs sur scène. Ce qui est aussi assez frappant, c'est la vidéo. Donc on a des éléments, on a une caméra qui circule d'un comédien à l'autre pour se filmer entre eux avec des gros plans, des profils, une projection sur chaque bord de mur sur la scène. Donc l'image est comme ça assez redondante, assez présente. Et prend une place, vient s'infuser comme ça dans le décor même. Donc on a une image dans l'image, et nous, spectateurs, on se retrouve un peu comme des voyeurs. On vient là titiller notre goût du voyeurisme, de la même manière que sur Facebook, je vais aller chiner une image croustillante chez un ami, un autre, etc.
Ouais, regarder les profils de gens qu'on connaît à peine, leurs photographies.
Exactement. Donc là, il reprend, Jocelyn Pelletier, dans sa mise en scène, reprend ces processus-là d'aller chercher comme ça nos travers, dans le fond. On est vraiment... Et va dénoncer cette violence-là que ça va provoquer chez les gens. Finalement, moi, ce qui m'a dérangé dans cette pièce-là... Je peux maintenant le dire après avoir donné les qualités de la scène. Ce qui m'a dérangé, c'est que finalement, en parlant de cette vidéo, j'ai trouvé que c'était un peu complaisant. Je me suis un peu demandé la place de cette vidéo-là, parce qu'on parle de l'image. On parle on le sait, hein, que l'image est omniprésente dans la société. J'ai trouvé que le texte était vraiment solide, était vraiment pertinent. Pourquoi faire cette vidéo en plus? Pourquoi faire se filmer? Bon. En tout cas, après, c'est une opinion qui est totalement personnelle. Mais j'ai trouvé finalement cette utilisation de la vidéo, elle est elle-même conformiste, si tu veux. Jocelyn Pelletier dit « on va se battre avec les armes qui nous détruisent ». Mais pourquoi se flageller encore plus? Pourquoi pas justement aller... Bon, en tout cas,
les utiliser d'une autre manière que celle de la manière qui est utilisée pour nous détruire, finalement.
C'est ça. Alors, en tout cas, pourquoi pas aussi étirer la performance vers chose de plus éclaté. C'est quand même une pièce qui est quand même assez riche. Il y a beaucoup d'éléments. Ça manque un tout petit peu d'homogénéité. J'ai trouvé que ça partait dans beaucoup de directions. C'est intéressant dans le sens où on sort de là. On est rassasié. Je me suis pas questionnée tant que ça parce que finalement c'est tellement notre quotidien. Est-ce qu'on n'est pas justement dans un cul-de-sac et dans un show qui est fataliste plus que dans. Je sais que Jocelyn Pelletier voulait par une fin plus ou moins positif et plus ou moins en lumière, en disant que finalement on est maître de nos destins et qu'on peut en sortir par l'amour, s'élever un peu de tout ça, mais bon, en tout cas, je trouve ça un petit peu, léger, voilà, c'est ça.
Donc, tu as apprécié quand même, malgré tout.
Ben, je pense que c'est une pièce à aller voir, en y allant sans a priori, en y allant librement, se laissant porter par quand même l'énergie des artistes qui est quand même assez belle. On a cinq très bons interprètes. C'est assez jeune, c'est assez dark, mais en même temps il y a quand même une certaine fraîcheur dans les propositions. Visuellement c'est intéressant si on aime l'art visuel, parce qu'il y a des tableaux, je parlais d'Egon Schiele juste avant, là on a une femme debout, la tête plongée dans la lumière, qui dit son texte. Moi j'ai des dessins d'Egon Schiele qui me sont apparus. Vraiment l'expressionnisme, hein, tu sais, c'est vraiment un hyper-réalisme qui est omniprésent, à la fois des images un peu surréalistes à certains moments, et puis cet expressionnisme qui est vraiment comme un croquis là, qui est en un work in process. Donc Libre à vous.
Libre à vous. Ben, l'exposition, hein, on est dans une émission d'art visuel, c'est sûr qu'on se trompe et qu'on dit l'exposition « on » étant « moi » et non « moi » et mes multiples personnalités. Donc, on peut aller voir la pièce de théâtre à premier acte jusqu'au 29 novembre. Rappelle-moi le titre, Fanny.
Entre vous et moi, il n'y a qu'un mur de Jocelyn Pelletier proposé par la compagnie Sushi Poisson Mort.
Ben, Fanny et non Lévy, merci beaucoup.
Merci à toi,
Julie. On se revoit dans plus ou moins un mois. C'est très variable.
C'est très vague.
Et pour l'instant, on s'en va en pause audio. On écoute From Noise to Noise de Manuel Chantre. Alors voilà, c'était From Noise to Noise de Manuel Chante qui est tiré de l'album Memortion and Other Works qui sera lancé jeudi à Montréal. Mais nous, on reste à Québec. En fait, on s'ancre dans Québec carrément avec une exposition qui est présentée à vue, les théâtres identitaires de Sylvie Larouche. Bonjour. Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Bon, les théâtres identitaires, hein, je pense qu'on joue dans la question de l'identité, on joue dans la question de la mise en scène. Pourquoi ce titre-là, précisément?
En fait, le titre fait référence à, justement, d'une part, l'organisation qui est théâtrale chez certaines, ben, dans les demeures domestiques, je dirais, et d'autre part, justement, à la portée identitaire que ces endroits-là, témoigne, exactement. C'est ça, ce qui met à... Puis, je t'ai entendu dire mise en scène, mais ce ne sont pas des mises en scène, c'est vraiment l'environnement réel des gens chez qui là, je suis allée faire le projet.
Oui, quand je dis mise en scène, ça donne l'impression d'un côté mise en scène, parce que toi, en fait, t'as une démarche particulière, c'est-à-dire que tu abordes des gens, fais-tu nous une relation avec eux, un contact avec eux.
Là. En fait, oui, c'est ça. C'est le projet découle, en fait, de l'idée de la rencontre. Puis pour ce projet-là, en fait, j'ai procédé par porte-à-porte, fait que j'ai déambulé dans les rues, puis je m'inspire un peu des vitrines, en fait, des fenêtres, des appartements ou des maisons.
L'habitude qu'on a de regarder tout le temps un peu en dedans.
Exactement, puis ces fenêtres-là qui sont parfois, il y a des espèces de manigances là, pour, tu sais, des statuettes, je sais pas, il y a toutes sortes d'ornements dans ces vitrines-là, bien c'est chez ces gens-là que je cogne, puis je leur propose de vivre avec moi le concept de la rencontre.
Puis la rencontre, elle s'échelonne sur un certain temps,
ça dépend des participants, mais c'est vrai que c'est rarement une seule rencontre, même jamais, je dirais. Puis ça peut aller jusqu'à 5-6 visites là, à domicile où on discute, puis on apprend à se connaître l'un l'autre.
Puis au terme de ça, naissent des photographies de ces gens-là, des portraits, dans le fond, de ces gens-là, puis aussi de leur environnement.
Exactement. Puis il y a aussi eu d'autres formes de manifestations, là, je dirais de la rencontre. Pour le projet qui est présenté chez vous présentement, ce n'est que des images, mais il y a eu d'autres manifestations aussi avec certaines personnes. Comme des échanges d'objets, correspondances écrites, des enregistrements audio, toutes sortes de trucs comme ça.
Oui, parce que ça a dû quand même, ça doit demander du travail là, d'entrer. On cogne chez des inconnus, puis on entre dans leur intimité. J'imagine pour toi, c'est une démarche qui est très, très impliquante là, au niveau personnel.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, moi, c'est ce qui me stimule. C'est, je trouve que j'ai tout à gagner dans ce genre de démarche-là, ou en tout cas dans la rencontre, parce que pour vous, vous allez voir des images tu sais, qui sont fixes, mais moi, c'est des moments très forts, justement, puis tu sais, d'autres sensations, puis des dialogues, des échanges tu sais, riches que j'ai eus avec ces gens-là, puis je les remercie d'ailleurs énormément.
J'imagine que ça apporte beaucoup là, dans la compréhension des gens ou de la manière dont ça fonctionne, parce que la plupart du temps, c'est des gens quand même assez... je dis la plupart du temps, là, je me fie à l'exposition, bien entendu, mais c'est des gens que j'ai personnellement croisé à plusieurs reprises dans le centre-ville, c'est déjà quand même marginalisé aussi, là.
Ils nous apparaissent marginalisés, je dirais, mais, tu sais, moi, pour les avoir rencontrés, finalement, c'est plutôt des gens très... des passionnés ou des gens très créatifs, tu sais. Puis oui, c'est des gens du quartier, parce que le projet s'est effectué en grande partie dans Saint-Roch, un peu dans Saint-Sauveur et dans Limoilou. Mais oui, c'est des visages là, du quotidien des gens de Saint-Roch, je dirais.
Ça peut être frappant, en fait, là, pour quelqu'un qui arrive dans l'exposition. Moi, je me rappelle, j'ai vu un des personnages qui habitait dans le même immeuble que moi, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Mais est-ce que, d'une certaine manière, est-ce que tu veux un peu nous montrer l'espèce d'indifférence qu'on a envers l'autre? Ou
Pas de l'indifférence, mais peut-être montrer plus une différence où tu es justement... une créativité, je reviens avec ce mot-là, parce qu'à mes yeux, c'est ça, c'est des gens très créatifs, puis tu sais, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas peur de chemin d'exposer qui ils sont, puis comment ils sont, tu sais.
Parce que ça se fait quand même, on a parlé de théâtre juste avant, j'ai parlé de mise en scène tout à l'heure, mais les intérieurs, en fait, les endroits où ils habitent sont quand même assez dignes d'un décor là, de théâtre. Là. Je pense aux aimants sur le réfrigérateur ou encore les animaux empaillés.
Oui, mais c'est vrai, tu as raison.
Il n'y a rien à répondre. En fait, c'est un commentaire que je faisais. Est-ce que des fois, tu as été... comment tu te sentais en rentrant aussi chez ces gens-là?
Ben, c'est parfois des belles surprises, parce que justement, tu entres dans ces lieux et tu ne sais pas vraiment à quoi, premièrement, à qui tu vas avoir affaire, parce que tu cognes puis c'est un homme, une femme, quelqu'un plus jeune, âgé ou non. Mais ils sont quand. Reste que ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est l'ouverture des gens face au projet, parce que. Je trouve ça drôle de dire ça, mais moi-même, j'aurais refusé mon propre projet. Quelqu'un qui cogne chez nous puis qui m'offre ça, je pense que j'embarque pas dans l'aventure. Fait que ça m'a beaucoup surpris, le pourcentage de gens, en fait, qui disent oui à ma demande.
T'sais. Est-ce que tu as une idée, à peu près, du
pourcentage? C'est plus que 90 %, là.
Ah ouais?
Oui.
Wow! Ça veut dire que c'est des gens qui ont vraiment envie de communiquer aussi, là, puis de rencontrer, d'être ouverts.
Oui. Mais le projet s'effectuait principalement de jour, les jours de semaine, parce que j'ai besoin de la lumière naturelle, vu que je travaille avec aucun flash ou une lumière pour compenser. Donc, c'est sûr que je suis tombée chez, je pense, des gens qui sont à domicile la semaine. Donc, pour la plupart, c'est des gens qui ne travaillent pas. Puis, ils vivent une certaine solitude, je dirais. Là. Fait que c'est sûr que... de me voir arriver à leur porte, ben pour eux, c'est un événement assez intéressant. T'sais. Ça leur tente de, oui, rentrer, puis de discuter, puis ça brise justement leur quotidien. Là.
Puis après que les portraits soient pris, après qu'il y ait eu correspondance, est-ce que tu gardes contact avec ces gens-là?
Certaines personnes, mais pas un contact aussi amical. Là, on se voit pas à toutes les semaines, mais quand je passe par chez eux, puis qu'ils sont près de la porte, ou même des fois, ça m'arrive de cogner pour aller voir comment ils vont. Mais tu sais, c'est pas... je garde pas un réseau aussi serré là, avec tout le monde, parce que ça serait trop un peu trop lourd.
Oui, c'est ça. Hein? Puis quand tu les prends en photo, c'est toi qui choisis l'endroit. Qu'est-ce qui guide la prise de la photo, en fait?
Oui, je les laisse choisir, mais j'influence certainement par plus une question de lumière, en fait. Parce que souvent, c'est des environnements qui sont peu lumineux. Fait que je vais, t'sais, proposer près d'une fenêtre ou, t'sais, pour faciliter là, justement l'action photographique. Mais ils sont quand même assez maîtres de choisir où ils vont être photographiés.
OK, donc c'est vraiment un dialogue, finalement. Là, c'est la suite du dialogue, là, cette photographie-là. Mais toi, Sylvie, tu as pas ou tu es en train de compléter, je pense, une formation en travail social aussi. Oui. Est-ce que tu fais en ce moment?
Exactement, comme intervenante sociale. Oui.
OK, donc ça relève aussi de l'intervention presque, cette pratique-là. C'est une manière de marier tes deux disciplines, la photo, l'intervention.
Ben, je dirais que les deux disciplines se nourrissent une l'autre, mais tu sais, c'est... Mon travail artistique, je le vois pas comme une intervention, là, tu sais, ou...
C'est en marge, là. C'est en marge, on est inspiré mais on n'est pas... Il n'y a pas une finalité...
Il y a comme une confiance à gagner, ou, tu sais, ça relève de la confiance aussi, mais, tu sais, je suis pas en train de faire un traitement avec ces gens-là, tu sais, c'est vraiment juste du dialogue, puis de la... Tu sais, je me reprends encore, mais c'est une rencontre, des rencontres humaines, tu sais.
Mais là, ce qu'on voit à vue, tu le disais tout à l'heure, il y a toutes sortes d'autres choses, des enregistrements, des correspondances, des échanges d'objets. J'imagine que ça, tu le gardes. Est-ce que tu as l'intention de faire quelque chose d'autre par la suite? Est-ce qu'il y a un projet qui s'en vient avec ça, ou c'est vraiment des archives plus personnelles?
Pour l'instant, c'est plutôt personnel, oui, c'est ça. Je voulais en fait visiter d'autres avenues que la photo. Mais je considère que quand même la photo était le médium par excellence pour ce projet-là.
OK. Bien, Sylvie Larouche, merci beaucoup.
Bien, merci à toi.
L'exposition des théâtres identitaires est présentée à vue jusqu'au 13 novembre. Vous connaissez l'endroit sur la côte d'Abraham, dans le complexe Méduse. On s'en va en pause audio, on écoute Pop Continental sur les ondes de CKRL. Du 25 octobre, l'aérospatiale tire déjà à sa fin. Donc, c'était Julie Gagné avec vous pour l'émission et passez une très belle soirée sur les ondes de CKRL.